Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si vous êtes passionné d'orchidées, alors vous êtes orchidophile. Parmi les orchidophiles, il y a ceux qui comptabilisent un nombre impressionnant d'orchidées à la maison. Ce sont des espèces exotiques qui vivent parfois hors sol. Et puis vous avez les orchidophiles qui parcourent la France à la recherche d'orchidées indigènes, c'est-à-dire d'espèces vivant sur notre territoire. Pas pour les cueillir, bien sûr, c'est interdit, mais pour les plaisirs de les voir dans leur environnement naturel. Car le saviez-vous, la France compte pas moins de 150 espèces d'orchidées réparties dans l'Hexagone. C'est peu au regard des 25 à 30 000 espèces répertoriées dans le monde, mais elle demeure tout de même une richesse fragile, nous le verrons d'ailleurs dans quelques instants dans cette émission. Pour l'heure, nous vous proposons de partir à la chasse aux orchidées grâce à l'Atlas des orchidées de France, publié en 2010 aux éditions Biotope. C'est à la fois un ouvrage de référence pour le public averti et un magnifique album de photos répertoriant l'ensemble de ces espèces pour le plus grand public. Un travail de fourmi qui a nécessité pas moins de 25 ans de travail et la collaboration de 3000 personnes. Un travail de titan coordonné par François Duzac et Daniel Prat. François Duzac est avec nous en studio. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été administrateur de la Société française d'orchidophilie, SFO, pendant une dizaine d'années. SFO est d'ailleurs à l'origine de cet ouvrage, l'Atlas des orchidées de France. Et depuis 2000, vous êtes responsable de la commission de cartographie et vous coordonnez l'inventaire des orchidées de France à la demande du ministère de l'écologie. Et puis vous êtes accompagné par Christian Dumas. Christian Dumas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes biologiste des plantes, professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon et membre de l'Académie des sciences. François Duzac, je me tourne vers vous pour cette première partie d'émission. On va bien sûr s'intéresser de près à l'Atlas des orchidées de France que vous avez coordonné avec Daniel Prat, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que vous représentez également. Quand on dit orchidées, monsieur Duzac, on pense aux espèces exotiques le plus souvent, pas celles qui peuvent pousser dans nos prairies. Les orchidées sont-elles une famille de plantes très développée dans le monde, François Duzac ?
Les orchidées, c'est la famille nombreuse du monde végétal. Selon certains auteurs, il y aurait de 20 000 à 30 000 espèces, classées en environ 1000 genres, ce qui montre l'extrême diversité de ce schéma architectural. Et il faut reconnaître que des orchidées, on en trouve à peu près partout, sauf dans les déserts et au pôle. Mais si on considère la bande équatoriale, entre 10 degrés de latitude sud et 10 degrés de latitude nord, on renferme là à peu près 80% des orchidées du monde, bien que cette bande, si on regarde ça sur une map monde, soit surtout constituée d'eau. Autrement dit, il va rester une bande, le nord de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, une bande africaine, une large bande de l'Asie du Sud-Est à l'Australie, et là vous avez pas loin de 20 000 espèces d'orchidées.
20 000 espèces d'orchidées et une variété, vous le disiez à l'instant, très importante. Certaines ont des formes curieuses qui pourraient parfois faire penser, alors là c'est juste l'amateur qui parle, à des jacinthes.
Oui, la structure de ces plantes, puisque ce sont, excusez du terme, des monocotylédones, renferme des variétés de formes importantes. On a effectivement, comme des jacinthes, surtout dans nos climats, des plantes qui ont une inflorescence qui rappelle un peu cela, mais parmi les équatoriales ou les tropicales qui sont le plus souvent dans les arbres, on a là des formes qui sont quand même différentes. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que les orchidophiles ne sont pas allés un peu loin dans l'examen minutieux des différences de structure pour générer autant d'espèces ? Certains le pensent. Cependant, c'est extraordinaire que sur un modèle unique, les orchidées ont fait des variations à l'infini, à la fois sur des formes et sur des couleurs, pour leurs fleurs.
Alors, on va avancer et on va bien sûr feuilleter votre atlas. François Duzac, un atlas qui porte sur la métropole mais pas sur les dom-toms. Pourquoi ?
Très bonne question. Pour créer cet inventaire des orchidées de France, à la demande du ministère chargé de l'environnement, il a fallu construire un réseau départemental de responsables. Dans chaque département, nous avons trouvé une personne qui a accepté de piloter une équipe pour fournir à la Commission nationale, commission de cartographie de la SFO, des données qu'il a fallu organiser, classer, répertorier. Il a fallu quand même plus de 20 ans de travail pour constituer une base de données conséquente qu'on a pu, à la demande du ministère de l'Environnement, fournir au muséum, et c'est cette base qui, utilisée et traitée, a fourni les cartes de l'Atlas que vous avez sous les yeux. Pour réaliser quelque chose d'équivalent dans les DOM, les départements d'outre-mer d'abord. La difficulté, ça consiste à trouver ce réseau, c'est-à-dire des personnes. Alors, c'est toujours l'alliance de beaucoup de bénévoles et de quelques professionnels pour organiser un pareil réseau. En Guadeloupe, par exemple, ça a été fait. Et en 2002, il y a eu la publication d'un atlas des orchidées de Guadeloupe par Philippe Feldman et Nicolas Barré. Une zone qui est riche, c'est la Guyane. Or, la Guyane, très beau secteur, mais difficile à prospecter. On pense qu'il y a certainement 350 espèces d'orchidées en Guyane, mais avant d'avoir l'atlas des orchidées de Guyane, ça va poser des difficultés. La Réunion, qui est peut-être plus facile d'accès, a 150 espèces, peut-être 175 espèces d'orchidées, et là, le travail est en cours. Autrement dit, on peut espérer, dans un avenir pas trop lointain, d'avoir aussi, pour nos DOM, des atlas de répartition de leurs orchidées. Ce serait excellent pour essayer de conserver ce patrimoine toujours en danger.
Alors, je le disais en introduction, puisque vous parlez des atlas à venir, et notamment en Guyane, je le disais en introduction, 25 ans de travail, 3000 personnes. Pourquoi tout ce temps et autant de personnes? J'imagine que c'est très compliqué, justement, pour partir à la chasse aux orchidées.
Ça s'adresse à des passionnés. Si on n'est pas passionné, on ne fera pas comme un orchidophile du département de la Marne qui m'a envoyé un mot très gentil après la parution de l'Atlas. En 18 ans, je crois qu'il me dit qu'il a parcouru 37 000 km avec sa voiture. Il a fréquenté de 1700 à 2000 stations. Et seuls des passionnés, des bénévoles, acceptent de courir dans tous les secteurs pour aller noter sur leur calepin telle ou telle orchidée, surtout les communes qu'ils vont rencontrer. Car de nombreux orchidophiles aiment beaucoup les orchidées, pour les photographier surtout, et s'intéressent essentiellement aux espèces rares ou très photogéniques. Et pour eux, noter des espèces communes, même à Paris, ça leur semble un peu ingrat. Voilà pourquoi il a fallu autant de temps pour réunir autant d'informations.
Alors, je le disais, on va quand même feuilleter cet atlas avec des photos magnifiques, hein, et puis également à chaque fois la répartition géographique de chaque espèce. Peut-être pourrions-nous commencer par la photo de couverture. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, François Duzac, et nous dire éventuellement quelle est cette espèce?
Alors, depuis un moment où il y a, depuis 20 ans, un certain nombre de publications sur les orchidées de notre pays, il y a presque des classiques qui sont apparus et il y a de nombreux ouvrages qui portent un beau paysage où on voit en premier plan une magnifique orchidée. La maison Biotope qui a réalisé cet atlas, qui fait beaucoup actuellement pour la publication d'ouvrages naturalistes, signe là aussi un peu une conception maison. Alors ici, on a une superbe orchidée d'altitude, c'est une nigritelle. On les trouve à partir de 2000 ou 1200 mètres dans nos moyennes montagnes. Et ce sont des orchidées qui sont ravissantes à l'œil et certaines sont magnifiquement parfumées. Il existe 5 nigritelles différentes quant à la forme et surtout à la coloration des épis. L'une s'appelle l'orchis vanille et il est vrai que par un bel après-midi un peu chaud en moyenne montagne, si on hume cette plante, c'est magnifique. Alors certains trouvent aussi un peu de chocolat, mais c'est superbe comme parfum.
Ce sont des orchidées que l'on trouve, alors vous disiez, en moyenne montagne, dans les prairies. Et on les trouve toutes dans les prairies, ces orchidées?
Non. Les orchidées acceptent un nombre de milieux assez important à condition qu'il y ait certaines conséquences de la géologie, de la climatologie, de la pluviométrie. Et il est vrai que quand on regarde la synthèse de la répartition des orchidées sur le territoire français, les terrains qui sont calcaires ou très légèrement acides renferment le plus grand nombre d'espèces. Les terrains plus acides, comme les terrains granitiques, les massifs primaires, on le voit pour la Bretagne ou pour le cœur du massif central, sont relativement pauvres en orchidées. Au contraire, tous les terrains du Jurassique en particulier manifestent de très très belles populations. Donc la géologie est un facteur important quant à leur présence, mais la climatologie, surtout en France, où on a plusieurs grandes régions climatiques, est peut-être même l'élément le plus important.
J'imagine qu'à chaque fois, il faut beaucoup d'ensoleillement. C'est un des éléments importants pour les orchidées.
Il est vrai qu'on a tendance à associer orchidées, plantes de lumière, les filles de la lumière. Il est vrai que sur nos 160 taxons ou espèces qu'on rencontre en France, un grand nombre sont des orchidées de lumière. Mais n'oublions pas que les forêts renferment aussi des espèces intéressantes où là, la lumière est quand même beaucoup plus dispersée. Ce sont des plantes de lumière, mais pas essentiellement.
Alors, je feuillette l'atlas en votre compagnie. J'imagine que vous devez avoir quelques orchidées préférées, comme tout le monde. Et parmi les 1500 personnes qui font partie de la Société française d'orchidophilie, quelles seraient les deux ou trois orchidées que vous affectionnez et pourquoi ?
Les orchidées qui laissent des souvenirs, c'est quelquefois lié à la difficulté de les trouver ou même à la difficulté d'accès dans leur biotope. Alors, il est vrai que pour un certain nombre, on fait comme les paresseux, on se renseigne auprès d'un ami et on lui dit « j'aimerais voir telle orchidée, tu dois connaître des stations, indique-moi ces stations ». Et alors, on peut, avec une assez grande précision, atterrir tout près de ces pieds d'orchidées. Mais le vrai plaisir de l'orchidophile, c'est lorsqu'il a quand même repéré dans un biotope des possibilités de rencontrer telle ou telle orchidée qu'il a le plaisir de les découvrir tout seul. Et en ce qui me concerne, il y a deux ou trois orchidées de petite taille, entre 10 et 20 cm, qui m'ont laissé beaucoup de souvenirs parce que j'ai mis beaucoup de temps à les découvrir. Il y a par exemple l'Herminium monorchis, belle petite plante, très menacée en France actuellement. Il y a aussi la Lystère à feuilles cordées, magnifique petite plante d'une dizaine de centimètres qu'on trouve souvent à proximité d'anciennes tourbières bombées. Et puis le Liparis de Lozelle qui est très emblématique puisque c'est une des deux seules orchidées de France qui sont citées au niveau européen pour essayer d'organiser une protection vraiment valable de cette espèce. Et puis bien sûr, je n'oublierai pas le sabot de Vénus parce que la première fois qu'on rencontre sur le terrain cette plante, c'est quand même assez étonnant que la nature ait pu produire une pareille sophistication.
Vous dites que certaines plantes sont protégées, mais j'imagine que toutes les orchidées sont protégées en France, sur la métropole en tout cas.
Hélas, non. Des pays comme la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, je crois aussi, protègent toutes leurs orchidées. En France, grâce à la loi de 1976 qui a fait apparaître en 1982 des arrêtés de protection, on a eu des protections nationales, 23 espèces, et puis des protections régionales et même quelques-unes qui sont départementales. Il me semble qu'actuellement, on peut dire qu'il y a une centaine, à peu près 100 orchidées, qui ont, à un titre divers, un moyen de protection. Mais n'oublions pas qu'une protection régionale a même valeur juridique qu'une protection nationale. Donc en France, toutes les orchidées ne sont pas protégées, mais un grand nombre quand même le sont. Ceci étant, la protection réelle des végétaux est quelque chose de très très difficile à réaliser. D'autre part, quand en 82 il y a eu des arrêtés de protection, les orchidophiles, enfin les botanistes ont fourni aux instances dirigeantes des listes de plantes qu'ils considéraient comme devoir protéger. Mais à cette époque-là, pour les orchidées, on n'avait pas un inventaire suffisamment précis pour savoir vraiment quelles étaient les plantes les plus en danger. Or, à l'occasion de la publication de cet atlas, le comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, nous a proposé de dresser la liste rouge des orchidées de France. C'est un pas essentiel et on est content de voir dans cet atlas les mentions liste rouge qui ont une grande valeur. Et on s'est aperçu que certaines espèces qu'on avait protégées dans les années 82 ou même 95, qui était l'arrêté de révision, n'apparaissent pas pour les spécialistes de la liste rouge comme des plantes les plus menacées. Et qu'une ou deux, qui apparemment ne semblaient pas poser trop de problèmes, ont alarmé, à juste titre je crois, les membres du comité de l'UICN.
Donc cette liste rouge a débuté avec la publication de cet atlas, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'il existe des espèces d'orchidées qui se développeraient beaucoup plus rapidement, tandis que d'autres seraient justement en danger? Vous voyez ce que je veux dire? Des orchidées qui prendraient la place d'autres orchidées.
Alors, il y a deux aspects dans votre question. On a trop peu de recul sur l'étude de nos orchidées en France pour voir si certaines espèces pourraient se développer au détriment d'autres. Il est sûr que depuis une cinquantaine d'années, il y a plusieurs espèces qui remontent depuis la partie sud de la France, on parle de réchauffement climatique certainement à juste titre, et en ce qui concerne les orchidées, par exemple l'orchis géant, Himantoglossum robertianum, est une plante qui en une trentaine d'années a envahi tout l'arc méditerranéen et remonte par la vallée du Rhône et même à des altitudes de l'ordre de 1000 mètres où on ne la voyait jamais. Cependant, c'est surtout l'évolution des milieux qui est à l'origine de la disparition de plusieurs espèces, les plus menacées étant les plantes des lieux humides, car il est sûr qu'on a entrepris depuis longtemps des drainages importants dans certaines régions qui étaient peut-être un peu trop marécageuses, mais ça a été au détriment de la flore, et certaines orchidées qui sont inféodées à ces milieux ont régressé terriblement, et certaines même presque un peu menacées de disparition.
Donc, il n'y a pas d'orchidées qui prennent la place d'autres. Simplement, les évolutions et notamment le changement climatique va favoriser l'apparition d'orchidées de certaines espèces plutôt que d'autres.
Oui, petit complément. Si ce réchauffement climatique s'accélérait, on a certaines espèces, les nigritelles, mais d'autres, qui vivent en moyenne montagne. Si le climat en moyenne montagne devient de plus en plus chaud, est-ce que ces espèces, qui apparemment ont besoin aussi d'une certaine fraîcheur, par exemple l'hiver, ne vont pas disparaître parce qu'elles ne trouveront plus en France de biotope convenable pour leur survie? On peut se poser la question, il y en a une orchidée, l'orchis nain, Camorchis alpina, qui est peut-être dans ce cas-là.
Donc certaines espèces menacées d'extinction, quelles sont les causes de ces menaces?
L'homme, hélas. Il est sûr que les modifications des pratiques agricoles, les changements de certains types de cultures, ont réduit ce qu'on pourrait entre guillemets appeler l'espace sauvage à très peu de choses. Par exemple, dans des régions de plaine largement cultivées, il ne restera bientôt plus qu'une petite partie de berme au bord des routes pour avoir une petite zone un petit peu sauvage où certaines plantes pourront continuer à y pousser. Il est sûr que les modifications des milieux, les pratiques agricoles, ne sont pas actuellement très favorables pour nos orchidées. On peut penser que vers 1950, lorsqu'on avait un autre type d'agriculture finissante, celle-ci, on a dû avoir, mais nous ne le savons plus, des superbes populations d'orchidées dans des lieux où maintenant il n'en reste que quelques pieds.
Alors, on va bientôt laisser la parole à Christian Dumas, qui est aussi avec nous en studio. Auparavant, François Duzac, quelques mots sur la Société française d'orchidophilie. J'imagine que vous organisez des conférences et puis des balades aussi pour partir à la recherche des orchidées. Vous pourriez nous en dire un mot?
Les orchidophiles ont des motivations différentes. À la Société française d'orchidophilie, qui a été fondée vers 1970, où nous avons actuellement environ 1500 membres, on rencontre des passionnés du terrain, c'est-à-dire soit la sortie de la journée, ou un petit voyage d'une semaine dans des régions riches de France, ou des voyages beaucoup plus lointains et plus longs en Orient en particulier ou en Asie. Occupe les souhaits de nombreux orchidophiles. Mais il existe aussi des spécialistes de la culture d'orchidées exotiques, c'est-à-dire qu'ils cherchent à recréer, en serre le plus souvent, des conditions voisines, des conditions réelles des plantes dans leur biotope propre, et ainsi on peut voir dans certaines serres des floraisons de plantes qu'on ne soupçonne pas quand on reste bien sûr dans notre territoire. La photographie a été aussi un élément moteur pour de nombreux passionnés. Il est vrai que ces plantes sont pas mal photogéniques et il suffit de voir avec quelle passion les photographes sont allongés, accroupis autour des plantes pour essayer de saisir la pose la plus jolie. Maintenant, pour protéger, puisque ça a été un souci, il faut connaître. Et pour connaître, eh bien, il faut s'instruire. Et donc, il y a eu de nombreux travaux. La SFO a une commission scientifique qui encourage même de jeunes chercheurs sur des travaux relatifs à certains points de la biologie des orchidées. Il y a des publications. Nous avons publié de nombreux livres. Et je crois que la devise ou à peu de choses près de la SFO, c'est bien connaître pour pouvoir protéger.
Eh bien, je vous remercie, François Duzac. On va laisser la parole à Christian Dumas, qui est plus là pour nous parler de la biologie des orchidées, puisque vous avez parlé de la culture. On va certainement en parler avec vous, Christian Dumas. Alors, je me tourne vers vous, Christian Dumas. Parlons peut-être, pour commencer, des orchidées qui ont besoin, je crois, de champignons pour pouvoir réaliser le processus de germination. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Absolument. Alors, pendant longtemps, en France, il était inconcevable d'offrir des orchidées parce que les orchidées étaient très chères. Et elles sont très chères. Maintenant, elles sont tout à fait à un prix abordable. Mais elles étaient très chères parce qu'on ne savait pas les cultiver. Et on ne savait pas non plus les multiplier de façon à avoir un grand nombre d'espèces à un prix relativement abordable. Il faut savoir que jusqu'en 1900, pratiquement, on ignorait comment les orchidées poussent. Pousser, c'est-à-dire depuis la germination. Lorsque la graine tombe au sol, les graines d'orchidées sont nombreuses et très très petites. C'est de l'ordre du millimètre, la taille des graines d'orchidées. Et lorsqu'elles tombent sur un terreau, pour qu'elle puisse germer, il faut absolument qu'il y ait l'aide d'un champignon. Et c'est Noël Bernard, un Français, qui a observé sur le terrain, en forêt de Fontainebleau, des orchidées avec des racines et ces champignons, ces filaments de champignons. Il a eu l'idée et l'intuition que le partenariat entre la plante, la graine et le champignon était indispensable. Et son intuition, il l'a vérifié expérimentalement, c'est-à-dire que les graines, il a pu les faire germer sur des terreaux où il y avait eu des orchidées. Et plus tard, on a pu isoler les champignons et montrer que finalement, il y avait une association à bénéfice réciproque que l'on appelle une symbiose. Et ça a été une des premières symbioses mycorhiziques. Les mycorhizes sont des symbioses entre plantes et champignons, très très répandues dans le monde vivant. Mais dans le cas particulier des orchidées, ça a été effectivement quelque chose de tout à fait intéressant parce que c'était le facteur clé pour permettre la germination.
Donc on le comprend bien pour des orchidées qui vivent en pleine terre, mais pour les orchidées hors sol, est-ce que c'est le même processus?
C'est le même processus, absolument. Il y a des spores de champignons qui peuvent voler grâce au courant d'air ou être transportés par les animaux et le même processus est requis.
Vous me disiez en préparant cette émission que parler des orchidées, c'était aussi faire l'histoire des sciences. Et vous aimeriez aborder la partie Darwin, et notamment l'étoile de Madagascar, qui justement a suscité les explications de Darwin. Est-ce que vous pourriez parler, nous en dire un peu plus sur cette partie-là?
Alors effectivement, Darwin a, comme vous le savez, a parcouru le monde. Et après son tour du monde sur le Beagle, il a reçu énormément d'échantillons. Et parmi les échantillons reçus, une orchidée en provenance de Madagascar qui était caractérisée par un appendice, on va dire ça comme ça, très long, une trentaine de centimètres. Et pour atteindre cet appendice, l'extrémité de cet appendice qui renferme des sucres, le nectar, Darwin a imaginé qu'il fallait un insecte particulier. Or, en Angleterre, donc la patrie de Darwin, les sphinx, puisque c'est le sphinx de Darwin dont il s'agit...
C'est un papillon.
C'est un papillon avec une trompe. Et généralement, la trompe du sphinx, on en trouve chez nous aussi, c'est de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Donc, comment arriver à l'extrémité profonde de cet appendice particulier qui fait une trentaine de centimètres, eh bien, il faut imaginer, et c'est ce que Darwin a fait, il a imaginé l'existence d'un insecte, un genre de sphinx avec une trompe d'au moins 30 centimètres pour pouvoir aller au fond. Et en allant au fond pour prélever le nectar, il va, cet insecte, avec sa tête, buter sur des petits organismes collants qu'on appelle des polliniques, qui sont des sacs à pollen. Il va coller ses sacs à pollen sur son front et en visitant d'autres fleurs, il va assurer le transport du pollen, c'est-à-dire une pollinisation croisée. Eh bien, le sphinx de Madagascar, adapté à l'étoile de Madagascar, donc découverte par ce botaniste, puis l'hypothèse formulée par Darwin, le sphinx a été trouvé pratiquement 40 ans après la formulation de cette hypothèse, qui était une hypothèse que l'on qualifierait aujourd'hui de coévolution entre la plante et l'insecte pollinisateur.
Puisque aujourd'hui, la plante, si elle existe, c'est parce qu'il existe cet insecte pollinisateur.
Sans l'insecte, la plante disparaît.
Il y a aussi ces orchidées qui sont douées de mimétisme. Alors, mimétisme visuel et mimétisme olfactif. Alors, olfactif, on imagine que c'est pour attirer certains insectes. Mais pourquoi mimétisme visuel?
Il faut savoir que les insectes voient très mal. Par contre, ils ont des cellules olfactives, une capacité à détecter des molécules parfumées extrêmement grande. Il y a des papillons dont on sait, par exemple, que les phéromones, donc des molécules parfumées capables d'attirer les mâles et les femelles, qui sont émises et les mâles peuvent faire un kilomètre pour venir trouver la femelle. C'est-à-dire que la femelle émet ces phéromones et à une distance d'un kilomètre, le mâle est capable de les détecter, ce qui est colossal compte tenu de la dilution dans l'atmosphère de ce genre de molécules. Donc, les insectes sont doués vraiment d'odorats particuliers, sans commune mesure avec le chien ou avec l'homme, l'homme étant très pauvre à ce niveau-là. Eh bien, les insectes sont attirés par un bouquet de molécules. On a pu identifier par électro-anténographie, c'est-à-dire en plaçant des électrodes sur les antennes de l'insecte et en faisant défiler différentes molécules, on détecte un signal électrique. Et lorsqu'on détecte ce signal, ça veut dire que l'insecte est sensible à cette odeur, à ce parfum. Et parmi, par exemple, une soixantaine de molécules émises par une fleur, il y en a deux ou trois qui sont analogues à des molécules que l'on trouve dans les phéromones, donc qui vont attirer pour la sexualité cet insecte. Et lorsque l'insecte arrive, par exemple, vers une belle ophrysse, donc une orchidée particulière, vous en avez certaines dont le labelle, c'est ce pétale médian tout à fait original, dont le labelle mime carrément l'abdomen de l'insecte femelle. Et on assiste à ce qu'on appelle une pseudo-copulation, c'est-à-dire que l'insecte mâle va copuler avec ce leurre visuel, mais en même temps olfactif.
Et va parallèlement polliniser les autres plantes.
Voilà, c'est ça. Et il va récupérer le pollen et aller polliniser d'autres plantes. On a pu mettre, dans certains cas expérimentaux, ces molécules parfumées sur un petit bout de plastique et l'insecte vient copuler le bout de plastique, ce qui montre qu'en fait, le facteur déterminant, c'est bien l'odeur et non pas le visuel.
Est-ce que là aussi, on est dans le cadre de la coévolution, comme
tout
pour l'étoile de Madagascar?
C'est exactement un cas typique de coévolution.
Alors un autre cas de coévolution, c'est la vanille. D'ailleurs, on ne peut pas parler d'orchidée sans parler de la vanille, puisque la vanille fait partie de cette espèce. Alors, je l'ai appris avec vous. La vanille, pour être pollinisée, a besoin d'une abeille particulière que l'on ne trouve pas partout. Alors du coup, pour pouvoir produire de la vanille, c'est l'homme qui doit intervenir.
Absolument. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la vanille est une plante d'origine mexicaine et que dans ces régions d'Amérique centrale, il y a une abeille, une petite abeille particulière, une mélipone, qui est inféodée à la vanille. Or, on a déplacé la vanille de façon à la cultiver dans des régions du globe qui ne sont pas les régions du Nouveau Monde, donc de l'Amérique centrale, où l'abeille inféodée à la vanille est absente. Et dans ces conditions, il n'y a pas production de gousses de vanille. Pour avoir des gousses de vanille, il faut que l'homme se substitue lui-même à l'insecte. C'est-à-dire c'est lui-même qui va polliniser fleur à fleur les vanilles, de façon à obtenir des gousses, gousses qui sont récupérées pour la cosmétique ou pour l'alimentation. Eh bien, les fleurs de vanille durent une journée, donc dans les plantations de vanillés, on met les vanilles sont sur un support, généralement un piquet de bois par exemple, et il faut parcourir tous les jours pour observer les fleurs et rapidement les polliniser de façon à ce que l'on puisse obtenir des gousses de vanille.
Ne pas manquer le jour propice.
Voilà, exactement.
Et puis, parlons aussi de l'aspect culturel. Donc, il y a certaines plantes qui sont en voie d'extinction, hein, certaines orchidées qui sont en voie d'extinction, et notamment parce que, parfois, dans certains pays, on récupère les tubercules. D'ailleurs, j'ai appris avec vous qu'on ne parlait pas de bulbes, mais de tubercules. Pourquoi, Christian Dumas? Pourquoi on récupère les tubercules?
Alors, historiquement, c'est Théophraste qui a donné le nom aux orchidées. Orchis, en grec, ça veut dire testicule. Et dès le 1er siècle après Jésus-Christ, on trouve dans les écrits de Dioscoride, par exemple, le fait que les bulbes, qui sont en fait des tubercules, qui miment par leur forme et leur attache par paire des testicules animaux, avaient des valeurs aphrodisiaques. Donc ça a déclenché des fantasmes, et ces fantasmes se sont transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, par exemple, en Turquie, on vous vend une boisson qui s'appelle le saleb, qui aurait des vertus aphrodisiaques, qui en fait n'en a pas, mais qui provient de la décoction de ces tubercules d'orchidées. Et le résultat, c'est que ça a entraîné la disparition d'une trentaine d'espèces d'orchidées, et il y en a une quarantaine qui sont menacées suite à cette habitude qu'ont les Turcs et à ces croyances sur les côtés aphrodisiaques de ces tubercules.
Donc ces orchidées souffrent à la fois de leur beauté, puisqu'elles sont cultivées pour ça, mais également de ce mythe qui a la peau dure. Et il y a beaucoup d'orchidées qui sont en voie d'extinction, hormis ces questions d'aphrodisiaques, Christian Dumas.
Alors effectivement, comme la plupart des plantes, il y en a un certain nombre qui sont menacées de disparition. Elles sont répertoriées maintenant et pratiquement toutes protégées. Notamment dans l'Hexagone, mais au-delà de l'Hexagone, on peut les observer. Et du reste, si vous prenez une flore qui permet de déterminer les orchidées, vous aurez la description de toute la partie aérienne et de la fleur, mais vous n'aurez pas de description de la partie souterraine pour éviter justement que les gens déterrent les bulbes, qui sont des tubercules, et favorisent finalement l'extinction et la disparition des orchidées. Donc tout le monde sait maintenant que les orchidées, il faut les observer et pas les arracher Autrement, on détruit de façon irrémédiable la plante.
Et notamment ne pas les arracher pour les mettre dans son jardin, les regarder, les photographier et repartir.
Absolument.
François Duzac, un dernier mot, juste une précision sur, puisqu'on en parlait en préparant cette émission, sur le nombre d'espèces d'orchidées en France. Je disais 130-135 en introduction, mais vous disiez qu'il y en avait peut-être un peu plus.
Question délicate. Qu'est-ce qu'une espèce végétale? Personne n'a répondu à cette question. Qu'est-ce qu'une espèce d'orchidée? Encore moins de réponses valables à cette question. On a tendance à utiliser un mot un peu plus savant, taxon, car ça peut être une espèce, une sous-espèce, une variété, une forme quelquefois. Et dans l'atlas des orchidées, on s'est à peu près arrêté à 160 taxons représentatifs de la flore orchidologique de France. Mais chez certains auteurs, ils préféreraient un nombre d'espèces plus réduit avec mention de certaines sous-espèces ou de certaines variétés. Ce qui est important, c'est qu'il y a pas mal d'orchidées chez nous et qu'il faut surtout les protéger.
Merci Christian Dumas, merci François Duzac d'être venu nous parler de ces orchidées dans le monde, mais également en France, à travers notamment cet atlas des orchidées de France, un atlas qui a nécessité, je le rappelle, 25 ans de travail et la collaboration de 3000 personnes. Un atlas édité aux éditions Biotope et paru en novembre 2010.
Oui, pour réaliser cet inventaire, il y a eu 3000 personnes ou organismes. Et je ne voudrais pas manquer l'occasion de souligner l'accompagnement important des conservatoires botaniques nationaux à nos propres travaux. Au début, ils ont peut-être été un petit peu réticents, ne sachant pas trop la qualité du travail que l'on fournissait, mais petit à petit, la coopération s'est bien installée et on doit les remercier d'avoir bien collaboré à cette belle réalisation.
La mention est faite. Merci à vous, François Duzac, merci à vous, Christian Dumas, et à bientôt pour une prochaine émission.